enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
C'est un thème que j'ai beaucoup à cœur parce que Dieu a pour chacun de nous une destinée, vous le savez ? Et nous sommes sur cette terre pour une raison précise, c'est réussir notre destinée. Amen ? Nous sommes nés pour une raison précise, nous sommes aussi dans le corps de Christ pour exercer une tâche précise et nous sommes tout simplement dans le monde tout court pour faire des choses précises. Amen ? Au niveau des prophéties, nous voulons que de plus en plus les gens puissent se libérer, venir sur l'estrade ou même, si c'est pas sur l'estrade, partager ce qui est sur leur cœur. Parfois, c'est ce qu'on peut appeler littéralement une prophétie, parfois c'est une exhortation. Et nous encourageons aussi chacun, vous savez que c'est la règle ici, d'analyser tout ce qui est dit, ok? Donc parfois vous pouvez recevoir tout le contenu d'une prophétie, d'autres fois vous avez le droit de recevoir que la moitié, d'autres fois que les trois quarts, d'autres fois qu'un dixième, et d'autres fois de rien recevoir du tout. Amen? Parce que c'est nous qui devons analyser les prophéties. L'apôtre Paul nous dit analyser toutes choses. Et dans la mesure où vous acceptez cette règle, nous acceptons en tant que responsables la règle que vous puissiez tous prophétiser. Amen. Et Dieu nous encourage de toute façon à aller de l'avant, de purifier nos cœurs. Amen. Et surtout de ne pas repartir en arrière. Donc nous avons tous une destinée qui est prévue avant même la fondation du monde. Alléluia. Une destinée, ça signifie un parcours précis que Dieu a prévu pour nous. On peut dire aussi une programmation précise. Le psaume 139, verset 16 nous dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Amen. Donc ça date d'il y a très longtemps. Nous comprendrons comment c'est possible lorsque nous serons au ciel et que nous serons capables de comprendre dans des corps régénérés, nous serons capables de comprendre les mystères de Dieu. Donc, rentrer dans sa destinée est synonyme de réussir sa vie. Qui est-ce qui veut réussir sa vie ici? Alléluia. Ceux qui veulent échouer, on priera pour vous tout à l'heure. C'est très grave. Conscient des erreurs de parcours que nous avons tous faites, l'idée est de se remettre régulièrement sur les rails par rapport à notre destinée, par rapport à notre appel. C'est ce que nous sommes supposés faire dès lors de notre conversion. Mais parfois le problème à notre conversion est que nous ne sommes pas toujours enseignés à chercher à accomplir notre destinée. Parfois nous sommes enseignés à nous asseoir sur des chaises, écouter de dimanche en dimanche et de mardi en mardi le prédicateur prêcher. Mais si prêche sans que ce qui nous annonce nous permette de rentrer dans notre destinée, nous servons simplement de public à un ministère. Ok? Donc l'idée n'est pas juste de se convertir pour réchauffer une chaise, comme je le dis souvent. L'idée est de se convertir pour pouvoir rentrer, n'est-ce pas, dans les voies que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous. Et donc pour pouvoir être utile dans le royaume de Dieu. Je crois que beaucoup d'églises sont remplies de chrétiens nés de nouveau, mais qui ne sont pas utiles pour le royaume de Dieu. Amen. Et ça, c'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que je suis utile pour le royaume de Dieu? Est-ce que je suis né de nouveau? D'accord? Mais ce n'est pas parce que je suis né de nouveau que je rentre obligatoirement dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance de toute éternité pour moi. Le fait de naître de nouveau m'ouvre la porte, n'est-ce pas, pour pouvoir rentrer dans ses œuvres. Mais Dieu ne va pas me forcer à y rentrer. Il va m'enseigner, il me demande d'être à l'écoute du Saint-Esprit, il me demande de chercher le plan qu'il a pour moi. La Bible nous dit que Dieu ne se tient pas loin de chacun de nous, et nous croyons que son plan ne se tient pas loin de chacun de nous, mais Dieu a voulu qu'on se donne la peine de le chercher lui, et de chercher quel est son plan, qu'on se donne la peine de chercher à écouter sa voix. Et la parole n'est pas loin, dit l'Écriture, parce qu'elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Amen. C'est ce qu'a dit Sandrine tout à l'heure. Pas besoin de partir à l'autre bout du monde ou de chercher à faire le tour de tous les séminaires possibles et imaginables et de se faire imposer les mains par tous les prédicateurs connus, possibles et imaginables, jusqu'à ce qu'il ne reste plus un cheveu sur la tête. L'idée, c'est de pouvoir trouver Dieu là où nous sommes. Parce que quand vous allez à l'autre bout du monde, vous allez quand même devoir chercher Dieu dans votre cœur. Alors ça économise parfois des frais d'avion de chercher sur place. Qui ne nous empêche pas d'aller parfois à l'autre bout du monde. Amen. Mais si j'y vais pour chercher Dieu, Dieu est là. Et si je suis né de nouveau, Dieu est venu habiter en moi. Et le juste trouve dans son cœur des chemins tout tracés. C'est-à-dire qu'il y a dans mon cœur des chemins qui ont été tracés. Il y a ma destinée qui est tracée dans mon cœur. Et quand je cherche le plan et la volonté de Dieu, pas besoin de regarder si Dieu va écrire sur les murs quelle est cette destinée. Il faut que je regarde à l'intérieur. Quand j'écoute la voix de Dieu, au lieu de dire « Dieu parle », je dois dire plutôt « Dieu parle ». Sinon, je risque d'être surpris avec la tête vers le ciel et j'entends une voix qui sort d'ici. Amen. Parfois, nous nous convertissons et nous sommes encouragés à être seulement actifs dans le cadre de notre église locale ou de notre dénomination. Or, je voudrais vous dire, pour beaucoup, qu'entrer dans votre destinée consistera à s'envoler vers de nouveaux horizons. Et parfois, à s'envoler loin d'ici. Et à s'envoler loin de moi. C'est une mauvaise mentalité pour un serviteur de Dieu de vouloir retenir les gens. C'est comme un père qui veut retenir à vie ses enfants à la maison. L'homme quittera son père et sa mère. Il doit se détacher de quelque chose. Et croyez-moi, c'est une mauvaise politique que d'essayer de garder les gens au milieu de nous. Ce qui importe, ce n'est pas que vous soyez avec nous. Si Dieu vous destine à y être jusqu'à la fin de vos jours, ben ce n'est pas plus mal. Tout n'est pas votre appel. Mais ce qui est important, c'est que vous soyez là où Dieu vous veut à faire les choses que Dieu veut que vous fassiez. Amen. Pour entrer dans la destinée de son mariage, l'homme doit quitter son père et sa mère. Pour entrer dans notre destinée, pour notre ministère, pour l'appel que Dieu a placé sur notre vie, nous devrons de toute façon régulièrement nous détacher de quelque chose. Même si je ne suis pas appelé à être un prédicateur ou à être un missionnaire. Dieu a placé un appel sur notre vie pour le service. Dans Éphésiens 4, 11, il est même précisé 5 appels précis. Qui ne sont pas les seuls appels qui existent, mais 5 appels particuliers que Dieu a donnés à son Église pour la construire, et sans laquelle Jésus-Christ ne pourra pas revenir tant que ses ministères, en assez grand nombre, n'auront pas paru et n'auront pas réussi à travailler ensemble sans se manger les uns les autres. Éphésiens 4, 11, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. » Oui, il y a toujours des apôtres aujourd'hui. Il nous faut toujours des prophètes. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, et je vous rassure, il a donné beaucoup d'autres ministères, mais qui, pour la plupart, sont des ministères qui sont la continuation de ces ministères, qui permettent à ces ministères de fonctionner, qui ne sont pas inférieurs, mais qui fonctionnent selon un ordre différent. Certains sont appelés à être apôtres, les autres à être prophètes, d'autres à travailler dans le monde du travail en tant que témoins puissants, d'autres sont appelés, je le dis souvent, à vendre des merguez sur le cours Lafayette. Eh bien, gloire à Dieu. Mais assure-toi que tu es sur le cours Lafayette en train de vendre des merguez. Alléluia. D'ailleurs, si tu es appelé à vendre des merguez et que tu es sur l'estrade en train de prêcher, tu es à la mauvaise place. Et là où l'onction brise le joug, la non-onction augmente le joug. Et beaucoup de gens qui ne sont pas à la bonne place augmentent de prédication, de dimanche en dimanche, nos jougs. Là où ils sont supposés les faire tomber. Donc, quelqu'un nous débarrassera plus facilement de nos jougs en vendant des merguez, si c'est son appel, qu'en prêchant, si ce n'est pas son appel. Amen. Donc, il n'y a rien de honteux à vendre des merguez. Parce que l'appel de Dieu est glorieux. Il n'y a rien de honteux à passer la serpillière si c'est mon appel. Il n'y a rien de honteux à faire le ménage. Il n'y a rien de honteux à être caissière à casino si c'est mon appel. Je peux être un témoin puissant en étant caissière à casino. Et je vais emboucaner tout le monde en étant sur l'estrade au lieu d'être à la caisse. Alléluia. Tournez-vous vers quelqu'un. Dites-lui, je ne regrette pas d'être venu ce matin. Alléluia. Donc tu es appelé à prendre ta place au sein du corps de Christ, et on dirait, eh bien, dans le monde tout court. Amen. Dans Job 33, 23, il est dit, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a au moins 1000 anges pour chacun de nous dont la fonction est de nous diriger dans les voies que nous devons suivre. Amen. Alors certains disent, oh, il y a des démons, j'entends des voix. C'est vrai, mais t'inquiète pas, il y a des anges aussi. C'est juste de se fermer à toutes ces voies des démons, parce que Satan a assigné aussi des démons pour vous amener dans des voies fausses. Mais il y a au moins 1000 anges, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme, non, à chaque homme, la voie qu'il doit suivre. Quelle est la voie que tu dois suivre? Tu as une destinée. Mais pour que tu puisses suivre cette destinée, Dieu a prévu de t'oindre. C'est-à-dire de t'envelopper de la portion d'esprit, si on peut parler techniquement, l'onction, qu'est-ce que c'est? C'est la portion d'esprit nécessaire pour te permettre d'accomplir ce que tu ne pourrais accomplir par toi-même. Donc nous sommes tous oints du fait que nous sommes tous nés de nouveau, mais nous avons tous aussi une onction particulière que l'autre n'a pas pour nous permettre d'accomplir notre appel particulier qui n'est pas le même appel que l'autre. C'est simple. Jésus a dit qu'il était oint. C'est la définition du mot Messie, pour accomplir une mission. Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Combien de chrétiens qui sont toujours en train d'annoncer une mauvaise nouvelle? Chaque fois que les rencontrent, ils ont un rapport négatif. Négatif, négatif. On change de trottoir. On dit, celui-là, il va encore me sortir un truc, il va me saper ma journée. Il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons être sauvés en Jésus-Christ si nous sommes perdus. Mais la bonne nouvelle, si nous sommes pauvres, pour le pauvre, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas à rester pauvre. Pour le malade, la bonne nouvelle, c'est quoi? Si c'est qu'il doit rester malade, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est qu'il peut être guéri. C'est une bonne nouvelle qui comprend plusieurs bonnes nouvelles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia! Donc nous sommes loin pour marcher sur les traces de Christ. Chacun selon notre spécificité. Je l'ai dit plusieurs fois, le mot chrétien signifie oint, oint à l'image de son modèle, Jésus loint, comme lui-même a été oint, pour les mêmes raisons, pour marcher sur ses traces. Donc nous sommes des briseurs de jougs. Alléluia. On ne va pas revenir sur cet enseignement, mais j'aime bien rappeler régulièrement quelle est notre mission. Donc l'onction et la destinée sont indissociables. Parce que sans être oint, on ne peut pas rentrer dans sa destinée, accomplir ses œuvres préparées d'avance par Dieu pour nous. Mais cette mesure d'esprit qui vous a été donnée pour entrer dans votre destinée, elle doit s'entretenir. Elle doit aussi se développer. Il faut l'arroser, c'est comme une graine. Les gens disent parfois, moi j'ai pas la foi. Oui, il a été donné à chacun de nous une mesure de foi. Simplement, il y en a qui l'arrosent et il y en a qui l'arrosent pas. Dans la foi vient de ce qu'on entend. Et dans le texte grec, la foi vient de ce qu'on continue à entendre. Donc je ne peux pas avoir une foi puissante si j'entends de temps en temps le message de l'Évangile, si je lis de temps en temps la Bible. C'est quand je continue à entendre toujours les mêmes choses, un message sur la foi, un message sur la prospérité, un message sur la guérison, qu'à un moment donné, j'arrive à saisir la prospérité, j'arrive à libérer ma foi et j'arrive à saisir ma guérison. C'est pourquoi le chrétien touriste qui vient à l'église en touriste, il ne peut pas être à la fois un chrétien touriste et un chrétien victorieux. C'est anti-biblique. La Bible dit que c'est celui qui perd sa vie, donc c'est celui qui paye un prix qui la retrouve. Ce n'est pas celui simplement qui est né de nouveau. Il n'y a aucune promesse de victoire pour le chrétien classique. Sortons de cette notion, je suis né de nouveau, donc je suis victorieux. Non, tu es né de nouveau, donc tu as reçu la possibilité d'être victorieux. Amen. On t'a armé. Maintenant, si tu laisses l'arme dans le fourreau, tu es comme un homme désarmé. Quoi que tu sois armé. Alléluia. Tu vas apprendre à dégainer. Amen. Être oint pour quelque chose, et l'efficacité de cette onction est indissociable, pardon, du fait de faire les choses pour lesquelles l'onction m'a été donnée. C'est-à-dire, c'est indissociable pour la développer, d'aller vers ce pour quoi j'ai été oint. Je peux être aussi oint que possible comme musicien. Si je me retrouve à vie à travailler à la banque au lieu de devenir un musicien professionnel, mon onction pour la musique ne va pas m'aider pour gérer les comptes à la banque. Est-ce que vous me suivez? Si je ne travaille pas mon instrument, cette onction ne va pas se développer. Et mon onction, on peut dire, est alors gaspillée. Ne gaspillons pas l'onction. Ne gaspillons pas ce que Dieu nous a donné. Rappelez-vous de ça. Ne gaspillez pas ce que Dieu vous a donné. Alléluia. Le diable redoute que nous rentrions dans notre destinée. Pourquoi? Parce que notre destinée est indissociable de la place que nous devons occuper en Christ. Et la place que nous devons occuper en Christ est indissociable d'une position puissante qui va automatiquement causer des ravages dans ses rangs lorsque j'ai réussi à y rentrer. Donc, la question, pourquoi il y a si peu de ravages? Ça dépend des pays actuellement, parce que Dieu se manifeste avec puissance dans certains pays. En France, c'est parce qu'une minorité seulement de chrétiens ont réussi à entrer dans leur destinée et sont sous leur onction. Le diable a réussi à nous occuper avec tout, sauf servir Dieu. Nous sommes à une époque d'ailleurs où les hommes, comme disait l'apôtre Paul, et souvent les chrétiens, aiment le plaisir plus que Dieu. Et nous devons redécouvrir cette folie, cette passion pour servir Dieu. Alléluia! Et on ne doit pas juger les gens sur leur coupe de cheveux, on doit les juger sur ce qu'ils vivent avec Jésus-Christ chaque jour. Alléluia! Le diable fait tout pour que les choses soient confuses dans notre tête. Mais Dieu veut qu'elles soient claires. Amen! Il veut qu'on soit saisi de crainte. Dieu veut qu'on soit fort, Dieu ordonne que tu sois puissant. Le diable veut que vous fassiez autre chose que ce à quoi vous êtes appelé. Il veut que vous vous mariez avec la mauvaise personne. Pour que votre vie... Il y a des gens qui ont perdu des années, il y en a ici, alléluia. Amen. Vous avez perdu des années, vous êtes marié avec la mauvaise personne. Je ne parle pas à ceux qui sont mariés aujourd'hui. Dans le passé, amen. Et ces années ont été perdues. Amen. Et parfois, tout perdre, eh bien, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Ça paraît terrible quand certains d'entre vous, vous avez vécu certaines choses, certains divorces, vous avez été rejetés. Sur le coup, c'était terrible. Mais aujourd'hui, avec le recul, vous avez refait votre vie. Et vous êtes sur les rails. Donc parfois, tout perdre peut être la meilleure chose qui puisse nous arriver. Au lieu d'avoir un pasteur qui nous dit toujours, non, il faut toujours essayer de récupérer le passé. Non. À un moment donné, les choses anciennes sont passées. Il faut courir dans la carrière qui nous est ouverte. C'est pas de moi, c'est dans la Bible. Allez, allez. Amen. Éphésiens 4:8, c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et mes amis, nous sommes nés, c'est vrai, lorsque nous sommes nés naturellement, nous sommes nés avec des dons précis. Tu peux être né avec le don de la musique, quand tu nais de nouveau, c'est pas pour ça que tu rejettes tout comme étant la chair et le passé. C'est quand même de Dieu. Amen. Tu peux être doué pour les mathématiques, et gloire à Dieu, quand tu te convertis, ça va pouvoir être utilisé pour le royaume de Dieu. Alléluia. Donc lorsque nous naissons naturellement avec des dons de Dieu, et lorsque nous naissons de nouveau, nous naissons aussi avec des dons spirituels. Des dons spirituels qui se manifestent par des canaux qui sont en nous, c'est un peu technique, depuis notre naissance. C'est pourquoi parfois des personnes qui sont appelées à être de vrais prophètes, eh bien loin de Jésus-Christ, sont utilisées par le diable qui connaît les canaux qu'il peut utiliser et la programmation de cette personne, alléluia, pour en faire quelqu'un qui est dans l'occultisme à bloc. Nous sommes nés avec des dons précis, des dons différents. Amen. Rentrer dans sa destinée va avec utiliser, développer, mettre au service du monde et de l'Église. C'est donc, qui suis-je pour mettre au service du monde mon don? Mais arrête de faire de la fausse humilité. Et si celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, tu peux être le plus petit aujourd'hui et tu peux être au sommet demain. Amen. Certaines des personnes qui ont le plus réussi, elles n'ont pas réussi parce qu'elles étaient toujours 10 fois plus douées que les autres, mais parce qu'elles ont cru que tout était possible à celui qui croit. Et la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le plus petit peut devenir quelqu'un demain qui influence les nations. Dieu ne regarde pas nos capacités, il regarde notre foi. Mais lui, il peut nous rendre capables. Amen. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de grandes capacités, c'est une bonne foi, bien ferme. Une foi bien ferme, là. Alléluia. Parce qu'il n'y a aucune promesse, je le répète encore une fois, de victoire importante pour quelqu'un qui a une foi évangélique classique. La Bible dit demeurer, résister à Satan avec une foi. Donc ce n'est pas une foi normale, une foi ferme. Donc je ne peux pas me permettre, je ne peux pas, permettez-moi l'expression, me payer le luxe d'avoir une foi évangélique classique. Est-ce que vous me suivez? Donc je dois rechercher, m'attacher parfois à un ministère, parfois à une église précise, parfois à un enseignement précis à travers des bouquins qui va me permettre que l'onction qui est à cet endroit coule sur moi et que la foi normale devienne une foi ferme. Alors là oui, j'ordonne à cette montagne de se jeter dans la mer, elle le fait. Ça ne veut pas dire qu'on doit ordonner à toutes les montagnes de se déplacer. Ça veut dire que les montagnes, Dieu, quand il nous dirige à déplacer une montagne précise, là, elle doit se déplacer. Maintenant, on ne va pas sortir tous et jouer à qui est-ce qui va déplacer le plus de montagnes. Ça mettrait un drôle de panique dans la région. Amen. Dans notre foi, doit être une foi intelligente, bâtie sur la parole de Dieu. C'est pas faire n'importe quoi par la foi, c'est faire ce que Dieu me dit de faire, car la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Un homme à qui l'on demandait comment il s'était retrouvé à bâtir une œuvre pour s'occuper des enfants abandonnés, il racontait un jour qu'il avait vu des enfants courir pour mendier auprès des voitures. C'était en Amérique du Sud, je crois. Et qu'alors il a vu une petite fille qui s'est mise à courir, hop, elle a été accrochée par un camion, elle a été broyée par le camion. Ben cet homme, il a dit, j'avais entendu ça à la télé, il y a plusieurs, ça fait très longtemps, j'ai jamais su si cet homme était converti, peut-être. C'était aux nouvelles, je crois. Ce gars, il disait, alors qu'on l'interviewait, à cet instant, j'ai compris pourquoi j'étais sur cette terre. Et que je devais faire quelque chose pour ces enfants. C'est malheureux, parfois il nous faut des chocs pour qu'on soit assez motivé pour entrer dans notre appel. Mais certains d'entre vous, profitez justement que vous n'avez pas de choc. Sinon, Dieu va être obligé de vous balancer un électrochoc pour nous réveiller. Amen. Parfois, on est réveillé par un truc qui nous traumatise. Ça s'imprègne dans notre esprit. On ne peut plus penser à autre chose. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour entrer dans notre appel lorsqu'on est enseigné tous les dimanches sur ces choses-là? À cet instant, j'ai compris pourquoi j'étais sur cette terre. Qu'est-ce que je fous sur cette terre? Quelqu'un m'a dit un jour, moi je mange, je bois, je dors. Eh bien, dis donc, ça suffit comme motivation? Manger, dormir et boire. Ah, c'est la vie. Moi, depuis que je suis gosse, j'ai une pensée en moi imprégnée. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Pourquoi je suis sur cette terre? Moi, je ne me suis pas converti parce que je souffrais. Je ne me suis pas converti parce que mes enfants, mes parents me battaient. Je ne me suis pas converti parce que j'étais au bord de la mort. Non, je manquais de rien. Mes parents se sont toujours bien occupés de moi. Avec le recul, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Je me rends compte qu'ils ont fait assez bien. Même si je leur reprochais à l'époque ce qu'ils faisaient. Mais j'avais cette obsession. Pourquoi je suis sur cette terre? Et cette obsession et la non-réponse à cette question, merci. Ok. La non-réponse à cette question me rendait malheureux. Comme disait quelqu'un, il y avait un grand vide dans mon cœur et ce vide avait besoin d'être rempli. Alors il y a le vide du fait qu'on ne connaît pas Jésus, mais après, une fois qu'on connaît Jésus, il y a le vide du fait qu'on n'est pas rentré dans ce qu'il a pour nous. Donc, on est là, on est une gruyère, on est troué là. Il y a des trous et il faut les boucher ces trous. On est épanoui quand... C'est les mentales, il n'y a pas de trous. Non, c'est le gruyère, il n'y a pas de trous. Les mentales, il y a du trou là. Hein? Comment? C'est le contraire. C'est-à-dire, non, le gruyère, il n'y a pas de trou. Les mentales, c'est une question théologique. Laissez-nous la régler, là, ce matin. Alors, les mentales, qu'est-ce qu'il a? Ils ont des trous tous les deux. Ben, là, on est avancé, là. Le comté n'a pas de trou. Et le gruyère a des trous. Ben, disons, ce matin, vous allez repartir avec une nouvelle connaissance, hein. La foi vient de ce qu'on entend, hein. Alléluia. Donc si nous sommes en gruyère, il faut devenir du comté. Voilà, c'est profond. C'est la révélation de l'instant. Ok. C'est une parabole. Donc nous avons tous une tâche à accomplir sur cette terre, non pas pour nous faire valoir, ni pour nous estimer satisfaits d'avoir fait quelque chose. Mais c'est plus simple, pour soulager les maux de l'humanité. C'est très simple l'évangile. Pourquoi est-ce que Jésus guérissait les malades? Pourquoi est-ce qu'il était avec les gens paumés? Ben, par amour, par compassion. Alors les gens vont chercher toutes sortes de raisonnements très mystiques, Dieu guérissait pour montrer sa divinité. D'accord, mais ce n'était pas sa motivation première, puisque certains lui demandaient un signe et ne leur donnaient rien du tout, zéro comme signe. Ok? La motivation de Christ, c'est pas de montrer comment il est grand, comment... Amen. À la rigueur, il ne veut même pas être adoré ce dimanche matin parce qu'il est Dieu et qu'il est le plus grand. Il veut être adoré pour ce qu'il est, parce que nous reconnaissons qu'il est bon, là en colère, et riche en bonté, plein de miséricorde. Nous devons adorer Dieu pour ce qu'il est. Amen. Pas parce qu'il est, tout simplement, pour ce qu'il est. Si Dieu était injuste, on ne devrait pas l'adorer. Amen. Dieu a donné des dons aux hommes, pour que ceci répande son royaume sur cette terre. Nous sommes les envahisseurs. Nous envahissons la terre. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu est synonyme de salut, de consolation, de guérison, de délivrance, de prospérité. Pourquoi je crois à la prospérité? Non pas pour qu'on se vautre dans l'argent les uns avec les autres, mais parce qu'avec la prospérité, on peut faire tout ce qu'on a besoin de faire pour pouvoir annoncer l'évangile aux nations, aider les orphelins et toutes les choses qui correspondent au plan de Dieu pour nous. Amen. C'est suicidaire de vouloir servir Dieu et de vouloir rester pauvre. C'est ridicule. Parce que les besoins sont si grands. Et tout se paye aujourd'hui. Amen. Donc prospérer, Dieu nous donne une onction pour prospérer, c'est la volonté de Dieu pour nous, pour répandre le royaume de Dieu. Tiens Tony, prends un avion demain, on te fait un chèque. Comment, tu n'as plus de voiture? Viens Tony, on t'achète une voiture. Ah, tu ne sais pas comment payer l'assurance? Viens Tony, on te paye l'assurance. Mais tu sers Dieu Tony. Ok? Au lieu de faire du carrelage. Amen. Il y a un temps pour tout. Gloire à Dieu. Vous voulez pas rentrer dans cette dimension? C'est ça qui... Pourquoi on doit vouloir une église puissante? Pas pour montrer à tous, regardez l'église de la Farlède, qu'est-ce qu'elle est puissante. Non, pour pouvoir accomplir les œuvres que Dieu nous demande d'accomplir. Amen. Moi, je suis pour verser des salaires aux intercesseurs, qui est des gens dont le travail, ce soit d'intercéder. 8 heures par jour, ils viennent à l'église, ils intercèdent. Ils intercèdent le matin, hop, ils vont manger à la cafette, ils reviennent, ils intercèdent. Et ils touchent un salaire. Les gens qui font la louange. Amen. Et qui n'est que ça à faire. Se préparer pour donner une qualité qui soit supérieure à ce que le monde fait. Pourquoi le monde il a la qualité? Parce qu'il met le prix. Amen. Mais il ne faut pas que le monde soit plus glorieux que nous quand même. Moi j'ai toute une vision pour l'église qui j'appelle une vision glorieuse. Alléluia. Jésus a dit qu'il était envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs, changer leur deuil en joie. Et c'est la même motivation qui doit animer quiconque se lève pour servir. C'est cette motivation qui doit nous pousser à chercher notre place ici-bas dans le corps de Christ. Ésaïe 40, 27, « Pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu ?» Et c'est la prière de beaucoup ici. Ma destinée, elle est cachée. Ça passe inaperçu. Pourquoi penser ou dire, moi je ne suis pas appelé, la vie chrétienne est morne, ou je ne sais pas pourquoi je suis si bas et ne le saurai qu'au ciel? Ou encore, il ne faut pas trop demander dans la vie. Oui, il faut beaucoup demander dans la vie. Moi je demande beaucoup à la vie parce que Dieu, il a payé un gros prix pour que je puisse recevoir beaucoup. Et ce n'est pas honorer le sacrifice de Jésus-Christ à la croix que de demander peu et de se contenter de peu. Parce qu'en Jésus, tout a été accompli. Amen. Et quand vous demandez beaucoup à Dieu pour pouvoir accomplir beaucoup, ce n'est pas de l'orgueil, vous rendez efficace le sacrifice de Jésus. Dieu veut que son peuple sache que sa destinée n'est pas supposée passer inaperçue. Amen. Il faut qu'on arrive à un stade où on ne passe plus inaperçu à Toulon. Parce que l'Église devient si puissante qu'elle peut faire fermer les cinémas pornographiques, qu'elle peut influencer sur les votes. Sa destinée ne passe plus inaperçue. On devient tellement influençable qu'on ne nous appelle plus la secte. Parce que ça devient dangereux. Alléluia. Vous savez, aux États-Unis, il y a certaines églises qui sont tellement importantes, eh bien, tous les politiciens ils sont obligés dans leur programme de prendre en considération ces églises dans leur ville. Et la dernière chose qu'ils vont faire alors qu'ils croient les mêmes choses que nous et qu'ils tombent par terre et qu'ils roulent et qu'ils sont dans le même nouveau, c'est de les appeler une secte. Parce qu'ils les craignent. Amen. La gloire de Dieu. Cherchons à connaître et à rentrer dans notre destinée. Personne ne le fera à notre place d'ailleurs. Tournez-vous vers quelqu'un, il faut qu'il comprenne bien. Personne ne le fera à ta place. C'était un peu les paroles de tout à l'heure. Hein. Personne ne le fera à ta place. Personne. Compte pas sur le pasteur pour le faire à ta place. Compte même pas sur ton épouse pour le faire à ta place. Parce que chacun, nous avons des comptes à rendre en tant qu'individu. La Bible dit que si tu maries, tu sauveras sa femme, que si tu femmes, si tu sauveras ton mari. Alléluia. Alors on est appelé à servir avec notre femme, avec notre épouse, avec notre église, avec nos amis. Alléluia. Mais si le monde entier s'écroule, on a notre appel en tant qu'individu au même point qu'on est sauvé en tant qu'individu. Amen. Personne ne le fera à votre place. Vos parents ne le feront pas à votre place. Vous devrez chercher Dieu pour vous. Amen. Lorsqu'on est nouveau converti, on est comme un bébé, on vient de naître de nouveau. Donc on est un bébé spirituel, et il est normal, au début, on est porté, comme nous portons nos enfants. Mais le temps passe, et Dieu nous demande d'apprendre à marcher. Et Dieu nous demande d'apprendre à ne plus dépendre de la foi des autres. Assurez-vous que vous ne dépendez pas de la foi de quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a beaucoup de gens, même dans le ministère, ils dépendent de votre foi. Alors ils deviennent très orgueilleux, ils font des choses, ils disent des choses et même ils vous lâchent. Et le jour où ils se retrouvent seuls, ils se rendent compte qu'ils ne dépendaient pas de leur onction, ils dépendaient de votre onction. Et là, ils sont bien embêtés. Alors assurez-vous que vous êtes arrivé au stade où vous dépendez de votre onction. Disons de cet homme. Mais croyez-moi, des années après, une fois ayant pris connaissance des choses de Dieu, si cet homme avait essayé de saisir sa guérison de la même façon par la foi des autres, il n'aurait pas pu. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de personnes. Nous nous convertissons, nous prions, hop, on a l'impression qu'il y a tout qui marche. Wow! Parce que Dieu, il est là, il regarde, il dit, qu'est-ce qu'il veut, bébé? Oui, bébé, il veut ça. Tiens, bébé. Bébé, oh bébé, il veut ça. Tiens, je vais t'envoyer un tel. Je vais t'envoyer le pasteur. Bébé, il a mal à la tête. Bébé, téléphone au pasteur. Allez, pasteur, il prie pour bébé. Et bébé guérit. Alléluia. Au départ, c'est normal. Et vous voyez les gens de 10 ans de conversion, bébé, il veut une sucette. Et Dieu dit, pas de sucette. C'est le moment de manger du steak. Alléluia. Le diable m'attaque de tous les côtés. Ben, débrouille-toi, Dieu. Tu as autorité. Je vous assure, si vous, le Saint-Esprit parle comme ça, parfois. Peut-être d'une manière un peu moins crue. Débrouille-toi. Ça ne veut pas dire débrouille-toi seul. Ça veut dire débrouille-toi avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Quelle est cette force que tu as? Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. On n'est pas seul. À la rigueur, je crois que souvent Dieu dit arrêtez de me déranger sans arrêt. Priez, répétez pas 10 fois la même prière. Et maintenant, agissez. Amen. Devenez mature. Gloire à Dieu. Nous avons tous une destinée. Cette destinée, nous ne pouvons pas y rentrer sans l'onction que Dieu nous a donnée. Donc il est évident que si Dieu nous appelait, il nous a ouin, même si on ne sent rien, nous sommes ouin, puisque Dieu, s'il nous appelait et ne nous donnait pas la capacité de pouvoir entrer dans notre appel, Dieu serait injuste. Il nous demanderait de faire des choses qu'on ne peut pas faire. Ce serait complètement injuste, vous êtes d'accord avec moi? À partir de l'instant où je sens vraiment que je suis appelé dans telle direction, j'ai l'onction pour ça. Et je vais devoir développer cette onction. Mais je vais devoir comprendre le dernier principe que je veux partager avec vous ce matin. Il y a cet équilibre à trouver. Je dois apprendre à combattre seul, mais je dois apprendre aussi à m'entourer des autres. C'est très différent d'être dépendant des autres et de travailler avec les autres. Est-ce que vous saisissez? Beaucoup de gens veulent travailler avec les autres pour être dépendants des autres. Donc ils vont faire des actes de foi et ils vous demandent à vous de payer l'addition. Et ça, c'est pas bon. Est-ce que vous me suivez? Alors en voyant ça, il y en a qui se referment sur eux et qui ne veulent plus travailler avec personne. Mais si nous mettons des gens indépendants qui travaillent ensemble, ça devient puissant. Si nous mettons des gens trop dépendants qui travaillent ensemble, ils s'accrochent, s'agglutinent les uns aux autres, ils se font couler tous ensemble. Mais si tous sont des individus libres, conscients de leur autorité, qui ont décidé de mettre leurs dons et leurs efforts au service des uns des autres, ça produit le principe dont l'Écriture parle. Un peut en chasser 1000 et deux peuvent en chasser 10 000. Un principe de multiplication. Et parfois, lorsqu'il ne se produit pas, amen, c'est qu'il y a, s'il y a juste une addition ou parfois une soustraction, vous travaillez avec des gens, ça produit une soustraction. C'est que les gens ne sont pas avec vous pour multiplier la puissance. Ils sont avec vous pour s'agglutiner à vous. Ou vous êtes avec eux pour vous agglutiner à eux. Est-ce que vous me suivez? Et c'est bon pour un couple. Un couple, alléluia, c'est pas pour que la femme elle soit derrière le mari, caché, dans l'ombre de son mari, ou parfois le mari dans l'ombre de sa femme. C'est pour qu'ils soient chacun, alléluia, côte à côte. Amen. Parce qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Il y a hommes et femmes dans le cadre du foyer. Alléluia. Et dans ce cadre-là, la Bible dit la femme doit être soumise à son mari, mais dans le ministère, il n'y a ni homme ni femme. C'est pourquoi une femme peut prêcher l'évangile. C'est pourquoi une femme peut enseigner. C'est pourquoi une femme peut être apôtre. Et on a mélangé les versets qui parlaient de la place dans le foyer et de la place dans le ministère. Mais dans le ministère et les choses spirituelles, il n'y a ni homme ni femme. Alléluia. L'onction obéit à une loi, la loi de l'amour et donc de l'unité. Par unité, je ne fais pas allusion à n'importe quelle unité, mais au fait d'apprendre à fonctionner ensemble et avec d'autres. Apprendre à fonctionner ensemble et avec d'autres. Apprendre à travailler en équipe pour qu'il y ait mélange, multiplication d'onctions, appelons ça comme on veut. Nous avons chacun une destinée individuelle, écoutez bien, nous avons chacun une destinée individuelle et nous avons chacun une destinée commune avec d'autres personnes. Et sur cette terre, nous devons trouver les personnes avec qui nous avons une destinée commune et faire attention à ne pas nous associer avec des personnes avec qui il n'est pas prévu que nous ayons cette destinée commune. Sinon, ces gens vont monopoliser notre temps que nous devons à d'autres personnes. C'est pour ça que quelqu'un qui est dans la mauvaise église, il est en train de passer à côté de sa destinée. Si ce n'est pas votre église ici, on est en train de vous faire passer à côté de votre destinée. Parce qu'il y a une destinée individuelle, une destinée commune. Alléluia! Il y a des gens, ils ont été appelés à travailler avec mon épouse et moi-même, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils sont obligés d'être dans ce cadre-là. Et puis d'autres, il ne faut pas qu'ils soient dans ce cadre-là, ou il ne faudra pas qu'ils soient à vie. Notre appel peut changer, varier, amen, régulièrement. Donc nous ne devons pas dépendre des gens et des hommes, ou de celui qui a parlé le plus fort, de celui qui m'a intimidé le plus, je dois dépendre de ce que Dieu me dit. Il ça semble devenir impossible aujourd'hui de quitter une église sans qu'on ait tous les problèmes de la création. Et sans qu'on ait une explosion atomique. Moi, quand j'ai quitté un certain milieu, j'ai même pas à l'époque, à cause de mon insécurité de l'époque, osé aller affronter les gens parce que je savais qu'il y allait avoir une explosion atomique. Pourquoi? Parce qu'on ne me quitte pas. Je suis le centre du monde. Je suis l'église. Je suis apôtre, prophète, enseignant, pasteur. Quand je ne fais pas tout le reste aussi. Il faut changer de mentalité, les amis. Amen. Donc, si vous voulez quitter ici, vous dites ce matin, il fait de la publicité pour qu'on quitte. Si vous voulez quitter ici, alléluia, on reste amis et que Dieu vous bénisse. Il faut changer de mentalité. Tu ne veux pas quitter, d'accord. Ne tiens pas un peu à quitter. Alléluia. Amen. Mais c'est la folie aujourd'hui, on ne peut pas quitter tranquillement quelqu'un en lui disant « Écoute, je sens que j'ai un autre appel de la part de Dieu, ça fait 5 ans, 10 ans que je suis à Souffle Nouveau ou dans la Fédération de Tartampion et je pense qu'aujourd'hui Dieu m'appelle à voler par mes propres ailes et à l'autre bout du monde. Ben, » Alléluia! On devrait se réjouir! Et s'il se casse la figure? S'il se casse la figure, ben écoute, s'il se casse la figure, le jour où il se rattrape, on ne va pas l'abandonner non plus. Il reviendra. De toute façon, il n'y a que ceux qui font rien qui ne se trompent jamais. Hein. Mais la peur de se tromper peut nous empêcher de faire des choses toute notre vie. La peur de se tromper. Donc il vaut mieux parfois quelqu'un qui se ramasse bien. Là. Ok? Quelqu'un qui reste toujours digne. Amen? Alléluia. Il y a des gens qui veulent toujours rester dignes, vous savez. Ils ratent les marches, mais dignement. Pouf! Oh! Moi j'ai beaucoup de gens dans mon entourage, quand ils rachètent la marche, vous savez, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui nous entourent et mon épouse c'est ça. Alors. Les gens ils disent qu'il y a un ramassis là-bas. Bon écoutez, j'aime bien les gens qui font les choses à fond. Parce que celui qui se casse comme ça la figure, quand il fait les choses qu'il doit faire, il les fait bien aussi, il les fait à fond. Hein? Celui qui est mi-figue et mi-raisin, on est dans le sud, il y a des expressions du sud. Celui qui est mi-figue et mi-raisin, il est mi-figue et mi-raisin pour tout. Ok? Alléluia! Tournez-vous vers quelqu'un, dites-lui, tu es mi-figue, mi-raisin ou quoi? Non, pour réussir, on va terminer notre destinée, celle-ci doit être liée à la destinée d'autres. Pour réussir ma destinée doit être liée à la destinée d'autres personnes. Alléluia! Et le nombre de fois où ma femme m'a empêché de me casser la figure dans mon ministère, c'est fou. Alléluia, heureusement qu'elle était là à côté. Les uns ont besoin des autres. L'église a besoin de chacun d'eux pour réussir sa destinée, son édification. Les uns vont stimuler les autres, les uns vont s'emboîter dans les autres. Quelqu'un va dire, oui mais c'est pas facile, mais j'ai jamais dit que c'était facile. Et Jésus n'a jamais dit que c'était facile. Le conflit des personnalités. C'est pourquoi il nous faut comprendre ce que nous avons expliqué, je crois que c'était dimanche passé, le principe de l'autorité. Dans nos milieux charismatiques, il nous faut respecter l'autorité. On manque de respect pour les autorités. Ok? Dans certains milieux, on a déifié les autorités. Mais dans nos milieux, nous avons besoin de redécouvrir le respect des autorités si nous voulons que ça puisse fonctionner. Parce qu'on ne peut pas être d'accord avec tout le monde 24 heures sur 24, même avec notre pasteur, mais ça ne nous empêche pas de garder du respect les uns à l'égard des autres. Alléluia. Ça permet le fonctionnement des choses. Là où l'esprit de rébellion casse tout. Les cinq ministères ont été placés, c'est très logique, c'est bébête, hein, on dirait, pour être cinq. Les uns ont besoin des autres. L'Église a besoin de chacun d'eux pour réussir sa destinée, son édification. Alléluia. Un début de l'onction qui est sur nous, un des travaux indissociables de notre destinée, est d'aider d'autres à entrer dans leur propre destinée. Un des buts de ce qui nous est donné à ceux qui ont déjà reçu quelque chose qui s'est déjà développé, c'est d'aider les autres, non pas à nous servir de public le dimanche matin, ok, et de pouvoir dire nous avons tant de membres dans l'Église, c'est d'aider les autres à découvrir leur destinée, même si cette découverte qu'ils vont faire par ce que nous prêchons nous les fait perdre. Amen. Peut-être quand mes enfants découvrent leur destinée, là c'est bien parti comme ça déjà, eh bien ils partent à l'autre bout du monde. En tant que père, tu perds tes enfants, ou partiellement. Mais je voudrais vous dire que réussir dans les choses de Dieu aura toujours un prix. Il y aura toujours un prix à payer pour réussir dans les choses de Dieu. Rappelez-vous de ça. Si vous trouvez que c'est trop facile, vous savez qu'il doit y avoir un problème. Il y a le diable qui est en train de vous tendre un piège. Vous dites, ah, il y a tout qui marche, frère, tout va bien. Alors tu sais que tu es en train de ne pas déranger le diable. Si tout marche bien, il y a un problème. Fais gaffe. Fais attention. Alléluia! Éphésiens 4:13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, il a placé ses ministères à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Vous avez vu, on a parlé de maturité tout à l'heure, l'homme fait qui mange de la viande, là. À la mesure de la stature parfaite de Christ. En d'autres termes, les saints ministères et d'autres ministères ont été placés, les ministères d'aide sont très précieux pour aider les autres à trouver leur ministère, leur destinée, c'est-à-dire prendre leur place au sein du corps de Christ. Amen. La notion d'équipe est inévitable pour ne pas laisser tarir l'onction. La notion de destinée est indissociable d'une notion de groupe. Le temps est venu pour que, plus que jamais, nous puissions rechercher à entrer dans notre destinée, que nous recherchions l'onction qui doit l'accompagner et que nous puissions nous entourer des gens que nous devons accompagner et qui doivent nous accompagner. Amen. Et faites toujours attention quand quelqu'un vous propose de vous aider ou d'être à votre service, dites pas c'est super. D'abord posez-vous la question, est-ce que c'est la personne que Dieu a envoyée? Sinon cette personne va vous causer tous les ennuis de la création. Cette même personne qui se met à votre service soi-disant pour vous servir, au bout d'un moment, quand vous n'êtes pas à votre place, vous avez un malaise. Quand vous vous levez le matin, vous avez un sentiment de je ne suis pas à ma place qui produit un malaise. Ok? Qui produit une irritation. Et vous commencez à être irrité et donc vous irritez les autres. Et on est tous passés par là. Quand on n'est pas bien, eh bien, on est tenté d'irriter les autres. Ok? On a l'impression que le monde entier est coupable. C'est tous les autres qui sont à côté de la plaque. Vous n'avez jamais eu ce sentiment, vous levez un matin, et le monde entier est à côté de la plaque, sauf vous. Ok? Quelqu'un qui roule sur une autoroute, et la radio dit, il y a quelqu'un qui roule à contresens sur l'autoroute. Ok? Et la personne dans sa voiture dit « Mais non, c'est pas une personne qui roule au contresens, c'est tous les gens qui roulent au contresens. » Ça veut dire que c'est cette personne qui est en train de rouler au contresens. Et quand elle entend la radio, elle a l'impression que ça ne la concerne pas. Ça concerne tous les autres qui roulent au contresens, sauf elle. Amen. Mais non, ils roulent tous à contresens. Alléluia.
Enseignement.com.
Enseignement.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignement.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignement.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.